Comment trouver la paix? Voilà une to-do list. 10 choses. Fais des pauses pour respirer et méditer. Établis des limites saines et positives, ne pas s'oublier soi-même. Désencombre ton espace de vie. Adopte une routine matinale apaisante et ressourçante. Pratique la gratitude. Connecte-toi davantage à la nature et moins aux réseaux sociaux. Apprends à pardonner et à lâcher prise. Fais ce qui te passionne. Explore et exprime ta créativité. Fais moins de choses. Voilà ce que Tiffany Button, une youtubeuse, conseille pour trouver ce qu'elle appelle la paix intérieure durable. Est-ce que c'est là-dessus qu'on veut se baser? Pas vraiment. Est-ce que c'est la clé, ces 10 choses pour trouver la paix? Pas sûr. Tiffany Button, elle se présente comme coach en bonheur. Alors comment est-ce qu'elle s'est procuré ce titre? Aucune idée. Est-ce qu'il y a un diplôme pour devenir coach en bonheur? Peut-être. Est-ce qu'on va lui faire confiance pour trouver la paix? Ma suggestion, c'est que ce n'est pas une très bonne idée de lui faire confiance pour trouver la paix. Qui donc peut prétendre nous donner la paix? Alors plutôt que d'écouter une vidéo de Tiffany Button, on va plutôt regarder ce que Dieu, notre Créateur, nous dit lui-même sur comment est-ce qu'on peut trouver la paix. Et nous allons lire Luc chapitre 19 et les versets 28 à 44. Je lis dans la version second 21 et dans les Bibles blanches comme celle-ci, c'est à la page 680. Luc chapitre 19, versets 28 à 44. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts !» Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Et c'est la fin de la lecture de ce texte, et c'est ce texte-là que je vais exposer, c'est-à-dire que je vais expliquer, tenter d'illustrer, et puis prier que le Seigneur l'applique à nos cœurs. Jésus est le roi qui peut nous donner la paix. Mais la paix dont il est question, ce n'est pas essentiellement la paix intérieure. Il ne parle pas essentiellement de cette paix-là, il parle d'une paix bien plus importante, une paix dont dépend notre avenir éternel. Et cette paix, elle dépendra de notre accueil ou de notre rejet de Jésus. Cette paix dépendra de notre accueil ou de notre rejet de Jésus. Premièrement, le roi accueilli, versets 28 à 40. Et dans le passage précédent, Jésus avait enseigné la foule concernant l'importance d'être un serviteur fidèle et les conséquences si le roi est rejeté. Et voilà maintenant Jésus qui continue son chemin vers Jérusalem. Vous savez qu'il est en chemin vers Jérusalem depuis, de mémoire, le chapitre, probablement le chapitre 9, où il est en chemin vers Jérusalem. Voilà, c'est ça, et on voit ça au chapitre 9, verset 51, où Jésus prend la décision de se rendre à Jérusalem. Et là, à ce moment du texte, on approche doucement de cela. Il est en chemin vers Jérusalem, il ne perd pas son objectif de vue, il s'approche du terme de son voyage, il n'est plus qu'à quelques kilomètres de la capitale, dans la banlieue proche de Jérusalem. On voit ça au verset 29, lorsqu'il est question de ces quelques villes. Jésus va donc envoyer deux de ses disciples pour une mission assez surprenante. Alors si vous êtes familier de ce texte biblique, peut-être c'est quelque chose de naturel. On entend ça, Jésus va monter sur un ânon, voilà. Mais c'est quand même assez surprenant comme mission. Et regardez versets 30 et 31, voilà la mission, et c'est Jésus qui leur dit cela. « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Est-ce que les disciples vont questionner Jésus? Ça aurait pu paraître logique, mais surtout quand on sait la demande qui fait. Et quand on ne sait pas pourquoi on doit faire telle ou telle chose, bah souvent on demande. Quand les enfants ne savent pas pourquoi on leur demande quelque chose, ils n'hésitent pas à demander la raison de notre demande. Mais pourquoi? Pose pas de questions, ou alors on leur explique, c'est mieux d'ailleurs. Mais parfois il faut juste obéir. Ici, les disciples, ils obéissent à Jésus. Ils partent, et puis il s'avère que tout ce que Jésus avait dit s'est réalisé. On voit ça dans les versets 32 et jusqu'à la première partie du verset 35. Jésus est au contrôle de tout ce qui se passe. Il ne subit pas. D'ailleurs, il ne subit jamais rien. Il prépare là quelque chose. Mais quoi? Pour quelle raison est-ce que Jésus veut se procurer un ânon? De toute évidence, il veut monter sur cet ânon, et c'est ce qu'il fait, au verset 35. Jésus monte. Et la suite nous fait prendre conscience qu'il est en train de se passer quelque chose, qui a une grande signification. Tout d'abord, on découvre qu'à mesure que Jésus avance, les gens lui déroulent le tapis rouge, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit dans le texte. Ce n'est pas tout à fait un tapis rouge, mais c'est quand même l'idée. C'est ce qu'on voit au verset 36. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. C'est une manière de préparer le terrain, de lui dérouler un tapis royal. Pourquoi? Eh bien, Jésus s'approche encore un petit peu plus de Jérusalem, verset 37, et soudain, deuxième partie du verset 37, alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts ». Ils accueillent Jésus comme le roi humble et glorieux qui apporte la paix. Jésus n'a pas demandé un ânon au hasard. Il n'a pas non plus choisi le lieu ni le moment par hasard. Il avait un but précis en tête et tout ce qu'il fait ici a un sens. Il ne fait pas les choses comme ça au hasard. Le fait qu'il se dirige précisément vers Jérusalem monté sur un ânon, ça a un sens. Et si on est familier de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, peut-être que lorsqu'on lit ce texte, il y a un passage comme Zacharie chapitre 9, verset 9 qui nous vient en tête. Et voilà, je le lis, Zacharie 9, verset 9. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. » Jésus accomplit là une prophétie vieille d'environ 500 ans. Une prophétie qui a du sens. Jésus aurait pu venir sur un cheval, c'est beaucoup plus impressionnant qu'un ânon, beaucoup plus prestigieux qu'un âne, mais il vient sur un âne. Lors d'un mariage, la voiture dans laquelle se trouve la mariée, c'est généralement, c'est pas toujours le cas, mais généralement c'est une assez belle voiture. Je me rappelle qu'à notre mariage, ça remonte maintenant à 10 ans, on a demandé à un ami qui avait une belle voiture, on lui a demandé « Est-ce que tu veux bien nous véhiculer avec ta voiture ?» À l'époque, c'était une belle 308, pour nous c'était vraiment une belle voiture, on lui a demandé. Et super, on a fait ce petit voyage de la salle, différents voyages de la journée, dans cette belle voiture. On voulait que ça soit marquant. Ici, Jésus, il n'a pas choisi d'aller sur le moyen de locomotion le plus prestigieux. Il n'a pas choisi de monter sur un cheval, mais il a choisi de monter sur un âne. Pour au moins deux raisons. Au moins deux raisons, dont l'une des deux est la plus importante. Alors la première raison, c'est que Jésus est monté sur un ânon par humilité. On l'a déjà souligné, c'est pas élogieux, c'est pas impressionnant comme moyen de locomotion de monter sur un ânon à l'époque. Jésus, il n'est pas venu pour impressionner les foules, même si les foules, elles sont souvent impressionnées par ces miracles. On le revoit encore d'ailleurs au verset 37. Mais en voyant l'humilité de Jésus, ça nous impressionne, en tout cas ça devrait nous impressionner beaucoup plus que si Jésus venait avec orgueil et fierté. C'est le roi qui vient humblement. Est-ce que vous avez déjà rencontré une personne qui est vraiment imbue d'elle-même ? C'est désagréable, n'est-ce pas ? Ça ne donne pas vraiment envie de rester avec cette personne. Ça donne plutôt envie de fuir. L'orgueil, c'est détestable. Jésus n'était pas orgueilleux, il est venu humblement, et ça se voit ici. Il est monté sur un ânon pour entrer à Jérusalem. Mais deuxième raison, et c'est probablement la deuxième raison qui est la plus importante, Jésus est monté sur un ânon pour nous faire comprendre qu'il est venu apporter la paix. C'est ça qu'il est venu faire. Jésus n'est pas venu en conquérant guerrier. S'il était venu sur un cheval, peut-être c'est cette connotation que ça aurait eu. Mais Jésus est venu avec humilité pour apporter la paix dont le peuple a besoin. Il est ce roi de paix. Et les acclamations du peuple, elles vont dans ce sens. Jésus choisit de venir de cette manière à Jérusalem pour montrer qu'il est le Messie, c'est-à-dire qu'il est le roi choisi par Dieu, un roi humble qui est venu apporter la paix. Le peuple acclame le roi et le peuple proclame des mots riches de sens. Regardez dans la deuxième partie du verset 38. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et cette phrase, elle fait écho aussi au tout début de l'évangile avec le chant des anges à la naissance de Jésus. Et c'est dans le chapitre 2, verset 14, et je vous lis ce verset. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. C'était tout au début de l'évangile. Là, on se retrouve presque à la fin de l'évangile. Jésus est le roi humble venu apporter la paix. Et personne ne peut le louper, même pas les pharisiens. Alors que la foule réagit dans la joie, vous le voyez, elle célèbre les louanges de Dieu. Les pharisiens, de leur côté, ils ont une toute autre réaction, n'est-ce pas ? Verset 39, regardez. Maître, reprends tes disciples. Ils jouent les troubles faites. Alors que Jésus est venu apporter la paix, la vraie paix, les pharisiens de leur côté, ils s'inquiètent pour la paix superficielle. Ils ne veulent pas de troubles dans les rues, ils ne veulent pas quelque chose qui pourrait ressembler à une révolution ou quelque chose qui pourrait provoquer l'intervention de Rome. Alors, il somme Jésus de faire taire ses disciples. Fais-les taire, ça suffit maintenant. Peut-être, parfois, j'ai les exemples des enfants aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, peut-être ma situation personnelle, des enfants qui sautent de joie pour quelque chose, ils sont vraiment heureux, ou même pour y avoir peut-être d'autres, d'autres images ou d'autres illustrations de cela, des gens hyper heureux, et on va les rabrouer. Non, tais-toi, ce n'est pas le moment là. Et d'une certaine manière, on dit qu'ils sont un peu moins joyeux. Quoi. C'est quoi le problème là ? T'es trop joyeux. C'est ce qu'ils font les pharisiens. Jésus, calme-les là, ça suffit. Et Jésus répond par une sorte de proverbe qui manifeste le fait que rien ne pourra empêcher ce qui est en train de se passer de se dérouler. Jésus est le roi humble venu apporter la paix. Et là, dans les versets qu'on vient de parcourir, on a vu Jésus être accueilli par la foule. Mais malheureusement, s'il est le roi accueilli, comme on l'a vu, on va aussi voir qu'il est le roi rejeté, versets 41 à 44. Et on a commencé à voir ça, hein, n'est-ce pas, avec ce rabrouement, si ça se dit, des pharisiens qui lui disent « Mais Jésus, reprends tes disciples. » Alors on voit le roi rejeté. Jésus, il continue de s'approcher de la ville de Jérusalem, verset 41. Et en voyant cette ville, Jésus, il pleure, deuxième partie du verset 41. Pourquoi ? Eh bien, il le dit lui-même très explicitement au verset 42, et regardez, je le lis. « Si seulement tu avais, » et donc il parle de cette ville, hein, de l'ensemble des habitants de cette ville, « si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Si seulement toi aussi tu avais reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. » On a l'impression que la foule, elle a reconnu en Jésus le Messie, ce roi venu apporter la paix. Mais en fait, de toute évidence, ils n'ont pas compris réellement le sens de la venue de Jésus. Le peuple pense peut-être à une paix superficielle, mais Jésus est venu apporter la paix véritable. Mais le peuple ne comprend pas encore, en tout cas, ça. C'est comme caché à ses yeux, et c'est ce que Jésus dit. Alors de quelle paix est-ce qu'il est vraiment question ? Vous vous rappelez, dans l'introduction, je parlais de Tiffany Button, on peut oublier le prénom, hein, mais on parlait de paix intérieure. Est-ce que c'est seulement la paix intérieure que Jésus est venu apporter ? D'après l'évangile selon Luc, dans la globalité un peu de l'évangile selon Luc, il semblerait que ça soit beaucoup plus important que ça. Luc chapitre 1, versets 68 à 69 nous dit ceci, et je vous lis ces versets. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. » Luc 1, verset 79 nous dit ceci, « Jésus est venu, verset 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » À d'autres endroits encore de l'évangile, lorsque Jésus guérit, il leur déclare qu'ils sont sauvés et qu'ils peuvent maintenant partir dans la paix. Il est venu pour ça. Et ce n'est pas d'une paix subjective, intérieure, qu'il parle. Lorsqu'il est question de paix ici, Jésus parle de réconciliation avec Dieu. Jésus est venu pour ça, pour réconcilier les êtres humains, nous, avec Dieu. Et alors que chacun d'entre nous, on veut mener, ou on voulait peut-être mener notre vie sans Dieu en lui étant rebelle, Jésus est venu pour rétablir la relation entre nous et Dieu. Voilà pourquoi dans Luc 1, verset 68-69, il est question de Jésus comme celui qui est venu racheter son peuple, comme celui qui est venu le sauver. Voilà pourquoi dans Luc 1, verset 79, Jésus est celui qui dirige nos pas sur le chemin de la paix. Voilà pourquoi dans Luc 2, verset 11, il est question de Jésus comme le Sauveur, qui est le Messie, le Roi. Et ça va se faire par la mort et la résurrection de Jésus à la croix. C'est là que Jésus va payer pour nos fautes et qu'il va réconcilier avec Dieu tous ceux qui reconnaissent Jésus comme le Messie, comme le Roi. Jésus est celui qui peut nous donner la paix. Jésus est celui qui peut nous donner la paix. Mais pour ceux qui le rejettent, c'est le jugement qui les attend. Et c'est ce que les versets 43 et 44 symbolisent. Dans ces versets 43 et 44, Jésus annonce que les Romains vont s'emparer de la ville de Jérusalem en l'an 70, après un temps de siège, et c'est un fait historique, ça s'est vraiment passé. Dieu se servira des Romains pour juger la ville qui a défié Jésus. Qui a défié Jésus comme le Fils de Dieu, comme le roi. Ça s'est passé parce qu'ils n'ont pas reconnu le moment où ils ont été visités. Mais ce jugement, c'est seulement un prémisse de ce qui se passera pour tous ceux qui rejettent Jésus, le roi. Le jugement dernier sera bien plus terrible pour tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Et tous les petits jugements qu'on vit ici sur terre, ce ne sont que des prémices de ce jugement plus terrible qui va à un moment donné se passer. Et ce jugement plus terrible, c'est souvent dit dans l'Évangile, ça sera d'amers regrets éternels, une souffrance éternelle pour ceux qui ont rejeté Jésus. Ça ne sera pas l'éclat en enfer, comme si Satan était le chef de l'enfer et on va s'éclater, on va pouvoir boire, on va pouvoir faire la fête. Non, ça sera des regrets éternels d'avoir, lorsque Jésus va revenir, tout le monde va reconnaître là, la splendeur du roi, mais ça sera trop tard pour ceux qui ont rejeté Jésus. Et donc, ça sera des regrets éternels, minces. Et peut-être plus que ça, pourquoi est-ce que je n'ai pas accepté Jésus comme mon sauveur? Et ça sera des souffrances éternelles. Pour tous ceux qui ne veulent pas de Jésus qui vient pour apporter la paix, alors ils auront la guerre. De la paix possible avec Jésus, c'est la ruine qui attend ceux qui sont sans Jésus. Mais ce n'est pas encore trop tard. Jésus est venu apporter la paix. Jésus est le roi qui peut et qui veut nous donner la paix. Et si vous n'êtes peut-être certains ici pas encore en paix avec Dieu, venez vers Jésus. Repentez-vous, placez votre confiance en Jésus. Et s'il est vrai que lorsqu'on parle de paix, ici dans ce texte, il est question premièrement de paix avec Dieu, de réconciliation avec le Créateur, c'est clair que ça parle de ça en premier, c'est une paix objective. Ça débouche aussi sur une paix intérieure. Ça n'omet pas cette paix intérieure, bien évidemment. Ce n'est pas la paix principale dont il est question, mais c'est une conséquence de cette paix avec Dieu. Et ce n'est pas une paix qu'on peut avoir en suivant les 10 clés de développement personnel que j'ai données tout à l'heure dans l'introduction. On peut les oublier, alors peut-être il y a des bons conseils par-ci par-là, mais ce n'est pas une recette pour avoir une paix comme ce que le Seigneur veut nous donner. Et le Seigneur veut nous donner une autre paix, il le dit lui-même d'ailleurs dans l'Évangile selon Jean. La paix que Jésus nous donne, c'est une paix de se savoir en sécurité aussi avec Jésus, de se savoir réconcilié avec Dieu, de se savoir entre les mains du Créateur bienveillant. Et ça nous donne aussi, ça, cette paix objective avec Dieu, une paix intérieure. On sait qu'on est en sécurité, on ne risque rien. Bien sûr, on peut mourir ici sur Terre, on peut être touché par la maladie, peut-être qu'on va être touché par des guerres, hein. Le monde géopolitique actuel est assez inquiétant. Mais toutefois, on peut avoir une paix profonde parce qu'on est entre les bonnes mains de Dieu. Jésus nous donne une paix que le monde ne peut pas donner. Et là, le constat est frappant. On regarde autour de nous, le monde ne peut nous donner aucune paix. Ni notre président de la République, ni personne. Et on ne peut pas compter non plus sur des chefs d'État de l'autre côté de l'Atlantique avec leur superpuissance pour nous donner une paix. C'est plutôt peut-être inquiétant. Mais Jésus est celui qui nous donne une paix. Il rétablit notre relation avec le vrai roi, le grand roi, le roi établi pour toujours, Dieu. Celui qui est le maître de ce monde, c'est Dieu. Ce n'est pas le président américain, ni russe, ni français, ni rien d'autre. Et voilà pourquoi la naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Et c'est le sujet d'une grande joie. Si on a placé notre confiance en Jésus, on est en paix avec Dieu. Et ça nous donne une vraie raison d'être en paix dans notre cœur. Rien de ce qui peut nous arriver ou de ce qui peut arriver dans le monde ne peut nous faire perdre cette paix profonde parce que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. En tant que chrétien, Est-ce qu'on vit concrètement la paix que nous avons avec Dieu? Est-ce que nous réjouissons de ça? Un marqueur essentiel de la vie d'un chrétien, ça devrait être une certaine paix profonde, une certaine joie aussi, une certaine paix profonde. Et c'est vrai que les circonstances, elles peuvent être parfois accablantes, elles peuvent être parfois tristes. Et donc c'est normal en tant que chrétien aussi de passer par des moments peut-être parfois de découragement, de tristesse. Et là, on a besoin des frères et sœurs de l'Église qui nous encouragent, qui nous rappellent justement. Mais appuie-toi sur Jésus. Il est encore là, il reste là, il ne t'abandonne pas. Il va rester là pour toujours avec toi. Tu n'as pas de raison de perdre cette paix profonde. Oui, peut-être pour un temps, on peut être un peu tiraillé, fatigué, lassé, triste. Et c'est normal d'être triste face à certaines circonstances de la vie, c'est clair. Jésus lui-même l'a été, la tristesse n'est pas un péché. Mais que nous revenions à Dieu, que nous nous rappelions ce que Jésus est venu nous apporter, la paix qu'il est venu nous apporter, une paix profonde, même si on est triste, on peut avoir cette paix profonde qui reste ancrée en nous. On est avec Dieu, il n'est plus en colère contre nous. Il nous regarde avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et Jésus ne nous regarde pas, si on est chrétien, avec un regard fâché où il fronce ses sourcils, non. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, même si la terre venait à se fendre, même si la guerre venait à frapper, Dieu qui a compassion de nous dit que son amour ne s'éloignera pas de nous et son alliance de paix ne sera pas ébranlé. Jésus est le roi qui peut nous donner la paix. Réjouissons-nous, célébrons-le. Et disons, comme nous le dit le verset 38, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Prenons un temps de silence, après quoi je prierai pour terminer. Merci Seigneur pour ce bon rappel. En regardant dans ta parole ce texte précieux pour nous, que Jésus est ce roi qui nous donne la paix. Et nous sommes en ce moment dans un monde marqué non pas par la paix, mais plutôt par la guerre, par les bruits de guerre, par tout ce qu'on peut entendre autour de nous, déjà en Europe et tout autour de nous, avec peut-être, nous semble-t-il, tout qui part en vrille. Mais toi, tu restes celui qui maîtrise ce monde et qui le domine, quoi que peuvent en penser tous les chefs d'État, même les plus puissants de ce monde. Tu es bien plus puissant qu'eux, tu es au contrôle, tu ne lâches pas la main sur ce monde. Tu es là et nous voulons être rassurés pour cela. Et puis nous voulons être rassurés, si nous avons placé notre confiance en Jésus, que Jésus est ce roi qui nous donne la paix. Et il nous permet d'être réconciliés avec toi, il nous permet de parler avec toi, de crier au secours aussi, de crier à l'aide, et puis de nous en remettre à toi aussi dans le contexte dans lequel nous vivons actuellement dans notre monde. Alors que nous pouvons être peut-être inquiets en regardant les infos, en écoutant les infos ou en les lisant dans le journal. Ben Seigneur, on a le droit de venir vers toi et de dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et s'il te plaît. On veut prier de préserver une certaine paix dans ce monde. Mais tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu permets aussi. Et que le monde qui nous entoure et qui est en train de partir un petit peu en vrille, et où le tempo général sur les derniers mois, c'est plutôt la guerre, que cela, peut-être, ça attire des gens autour de nous qui voudraient trouver la paix ailleurs qu'en Jésus et qui ne peuvent pas la trouver ailleurs. Ou alors ça serait une paix superficielle, ben que le contexte dans lequel nous vivons là les pousse à justement chercher la vraie paix en Jésus-Christ seul. Tu sais comment tu ordonnes les choses, Le Covid a été pour beaucoup une occasion d'aller vers Jésus et d'être sauvé. Merci pour ça, de ces personnes sauvées dans ces moments dramatiques aussi qu'on a pu vivre. Et peut-être que dans les moments que nous vivons actuellement, peut-être que ça va s'empirer ou peut-être pas. On ne te prie pas pour ça, mais on sait que tu utilises toutes choses pour ta gloire et que certaines choses que nous vivons, elles peuvent nous amener à nous placer encore plus entre tes mains et à placer notre confiance en Jésus. Et je te prie que de nombreuses personnes de Montreux, de Varennes et des alentours, et peut-être certains ici ce matin, qui n'ont pas encore placé leur confiance en Jésus, puissent se tourner vers Jésus comme celui qui apporte la vraie paix. Cette paix de pouvoir être rassuré, d'être entre tes mains, d'être réconcilié, d'avoir la vie éternelle avec toi pour toujours, quoi que se passe pour nous dans ce monde. Alors merci, encore. Si on veut trouver la paix, il nous suffit d'ouvrir la Bible et de voir à Jésus. Merci encore Seigneur. Béni soit Jésus qui vient en ton nom, qui est venu déjà en ton nom, qui nous a apporté la paix. Et nous voulons prier ça. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amen.